puisque je vais donner la parole maintenant à Marek Hudon, qui est professeur à la faculté Solvay Brussels School et qui est professeur et spécialiste de la microfinance, d'une discipline qui s'appelle Business and Economics Ethics et du développement durable, et à Barbara Clairbeau, professeure au département de physique à l'ULB et spécialiste de la physique des particules élémentaires, et qui vont être amenés à comparer les pratiques d'évaluation dans leurs deux disciplines et institutions respectives.
Alors, il y a ceux qui n'ont pas la chance de passer après le repas. Nous, on n'a pas la chance de passer après la désexcellence, dans le sens où la transition ne va pas être évidente à faire. Mais donc, en réfléchissant, donc comme on l'a entendu au début, hein, je faisais partie du comité organisateur. Lorsqu'on a réfléchi à cette journée, on s'est souvent posé la question des différences, évidemment, entre sciences sociales, sciences humaines et sciences exactes. Et donc, on s'est dit que ça valait la peine de faire cet exercice, de cette réflexion à deux voix. Et donc, il y a deux mois, j'ai eu la chance de rencontrer Barbara Clairbeau pour la première fois. Et on s'est vu deux fois pour essayer justement de comparer ces pratiques d'évaluation dans nos domaines respectifs. Donc, comme l'a dit Alain, moi, je suis en sciences de gestion à l'origine. Barbara est en physique. Alors, on a choisi, comme vous voyez, on est tous les deux devant cette estrade, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire une présentation en commun, en montrant peut-être au début qu'est-ce qui nous différencie. Et vous verrez que sur la suite, en fin de compte, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de constats qu'on partage.
Tout à fait. Alors, pour commencer, l'évolution de l'évaluation, on voulait quand même préciser un point. Je pense qu'on sera tous d'accord quand même que Marie et moi, on a vécu quand même une évolution forte de l'évaluation de la recherche et des chercheurs. Et que deux points qui nous paraissaient vraiment très importants, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est la transparence quant aux critères d'évaluation et à la composition des comités. Alors, on peut ne pas aimer les critères et comment ça fonctionne, mais au moins avec la transparence, on sait maintenant ce qui se passe et comment ça fonctionne, et éventuellement juger, progresser et avancer. Ce qui n'était pas le cas il y a 10-20 ans, où on se demandait, tiens, mais qui a pris cette décision et pourquoi ? Voilà, donc ça, je pense que c'est un point vraiment important à soulever. Et puis, le retour à l'intéressé, donc l'évaluateur qui fait un feedback, un retour à l'évalué ou au groupe d'évalué ou au projet, c'est aussi quelque chose, évidemment, de très important. Et donc ça, on tenait quand même fortement à le souligner, et ça, c'est dans n'importe quel domaine que c'est valable. Ah, ça va sauter aussi.
Voilà. Okay. Ouais, donc on va passer dans... Donc, un deuxième élément qui nous paraissait, évidemment, on en a parlé, c'est la force standardisation. Donc, on sait bien en physique que dans mon domaine en sciences de gestion, qui évidemment se rapproche des sciences économiques, on voit qu'il y a un phénomène d'alignement général. On en a parlé, donc on va aller très vite, hein, sur les critères et sur les standards internationaux, finalement, avec évidemment un alignement vers les critères européens, beaucoup. Et cependant, on s'est posé la question, mais finalement, est-ce que ça veut dire qu'il y a du coup les mêmes critères pour les différents champs de recherche? Et donc, c'est à ça qu'on va répondre ici.
Voilà, et donc là, on s'était dit, mais en pratique, Marek, comment ça marche chez vous dans vos commissions et comment ça marche chez nous en physique ou en sciences? Et donc là, on a voulu faire un regard croisé. Alors, on a mis deux colonnes. Décidément, pourtant, c'est un PowerPoint aussi, c'est bizarre. OK. Donc, d'un point de vue de l'expérience que moi j'ai dans les commissions auxquelles j'ai participé, donc en sciences et en physique, donc ce qui compte pour nous, donc on a parlé de toute une série de critères. Donc, il y avait bien sûr les revues internationales. Et alors, ce qui est important chez nous, bon, on pourra évidemment discuter si c'est bien ou pas bien, mais le nombre de publications dans les revues internationales sont importants. Donc, c'est plus sur le nombre et la renommée, évidemment, de la revue. Mais pas seulement, il y a aussi les présentations à conférences, le dynamisme de la personne, les collaborations nationales, internationales et la présentation des résultats des conférences. Donc, c'est un peu les gros critères qui jouent en général dans l'évaluation. Ici, on parle d'une évaluation d'un chercheur, donc d'une personne, pas d'un projet. Voilà. Et par exemple, le H-index, c'est quelque chose qui ne sort pas spécialement, où on ne fait pas systématiquement la liste des H-index. Ce n'est pas quelque chose qui est donné de manière systématique, ou qui est discuté, ou qui est classé, ou qui est repris. Ça ne se fait pas, de manière pas systématique.
Alors, de notre côté, donc je pense que ça vaut toujours la peine de comprendre un phénomène avec son cadre historique. De notre côté, historiquement en sciences de gestion, donc à ce qu'était l'école de commerce Solvay. Il n'y avait pas de classement, il n'y avait pas de mesures aussi standardisées. C'est lorsque on a eu la création de la nouvelle faculté, j'ai encore réfléchi et relu mes papiers, lorsqu'il y a eu la fusion avec le département des sciences économiques, que s'est senti assez rapidement le besoin d'avoir finalement un référentiel. Il y avait des cultures de recherche qui étaient évidemment très différentes. C'est sans doute qu'en sciences économiques, il y a beaucoup de modélisation, de quantitatif. En sciences de gestion, il y a aussi, à côté du quantitatif, pas mal de travail qualitatif. On a aussi de la sociologie, de la psychologie, etc. Et donc, il y a eu la création d'un classement de revues. La décision qui a été faite était de prendre, en fait, d'agréger deux classements externes pour ne pas avoir en interne à faire un classement, ce qui a été fait par exemple par des collègues, si je ne me trompe pas, à Liège, dans le département de gestion, si je pense, et ce qui vient d'être fait en économie à Louvain pour l'instant. Donc nous, on a décidé d'agréger le classement du CNRS et le classement en anglais, et puis de faire simplement, en fonction de ces différents classements, un certain nombre de points. Et ce sont ces points qui sont repris à la fois en termes définitifs et à la fois, en partie, je pense, au niveau des promotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a la qualité de la revue qui dépend de ce classement, qui est multipliée par le nombre de points. Donc, si vous publiez dans la meilleure revue, deux fois, ben, vous avez deux fois 10 points, 5 points de chaque classement. Si vous publiez dans une autre revue, c'est ça, selon le nombre de points. Ce qui est, en plus de ça, a été mis en avant, vu que, historiquement, certains de nos collègues voulaient uniquement limiter au top du top, c'est-à-dire prendre l'équivalent, on a beaucoup entendu ce matin, de Nature, ben, l'équivalent en sciences économiques de Nature, qui est sans doute American Economic Review, et de considérer que ceci, ben, à ce moment-là, on s'est dit, on va prendre un certain nombre de champs, c'est-à-dire dans le classement du CNRS, il y a des champs, et il faut aussi avoir des publications dans la meilleure revue du champ. Et depuis assez récemment, je pense, lors des demandes de promotion, aussi a été pris en compte les facteurs d'impact. Et un élément assez surprenant, on a agrégé les facteurs d'impact. Donc si vous avez dans une publication qui a 1.3, on rajoute 1.3 plus 0.2. Et donc il y a pouf, un facteur d'impact qui a été mis à côté de chaque chercheur qui demande sa promotion. Alors évidemment, je vais essayer d'être balancé. L'élément positif, c'est que ça a diminué d'une certaine partie un petit peu les tensions parce que les cultures étaient extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une valeur. Et peut-être qu'à l'origine, certains chercheurs estimaient qu'il y a une bonne recherche et cette publication dans ce type de revue aussi. Donc là, si on fait l'hypothèse, je pense qu'il est plus ou moins réaliste que le CNRS valorise différents types de recherches, ça a été positif. Maintenant, il y a évidemment des éléments négatifs. Dans certains domaines, vous avez donc ce 10, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement bien classées des deux côtés. Si vous êtes, pour prendre des collègues d'autres disciplines que la mienne, en économie de l'éducation ou en finance historique, par exemple, vous n'avez pas de revue qui monte au-dessus de 6 ou 7. Donc il faut arriver à produire beaucoup plus, si vous voulez, pour arriver à égaliser, pour prendre un exemple, la macroéconomie, qui a par exemple un certain nombre de revues qui sont très bien classées. Sur les facteurs d'impact, vous imaginez évidemment la différence. Moi qui publie beaucoup, comme l'a dit Alain, dans des revues d'éthique économique, éthique des affaires, les facteurs d'impact sont faibles. Si je publie plus dans des revues, comme dit Alain aussi, d'environnement, où là on a des interactions avec les sciences exactes, j'ai des facteurs d'impact beaucoup plus importants. Et donc ça rend une comparaison plus compliquée.
Mais donc en gestion, vous n'avez plus besoin de commission finalement. Vous prenez votre numéro. C'est très pratique. Voilà, alors il y avait aussi un autre biais évidemment clair de ce genre de système, c'est les revues considérées comme haut niveau. Ben, on va se mordre la queue dans quelques revues et le grand danger, c'est qu'elles soient toutes américaines. Et qu'est-ce que fait l'Europe alors dans cette situation-là? Ça serait vraiment très, très catastrophique. Alors par la suite, évidemment, on s'est vite rendu compte que si les indicateurs étaient peut-être les mêmes, ils étaient utilisés très différemment dans nos deux branches, mais on s'est vite, comme on a vite commencé à parler, assez rendu compte qu'on avait pas mal de biais, de dangers, de parents pauvres qu'on partageait complètement. On en a déjà parlé un peu ici ce matin. Et donc nous, ce qui nous a frappé, évidemment, c'était les projets, les profils et les projets visant l'interdisciplinarité. Alors là, c'est assez paradoxal parce qu'on vit un peu dans un monde avec deux messages. En théorie, c'est des projets qui sont toujours soutenus. On entend les gens, les politiques, les autorités qui disent oui, c'est important. Et puis Et puis, en pratique, on remarque que ça ne marche pas du tout. Donc ici, juste un exemple, par exemple, pour vous dire que c'est vraiment important, l'exemple de notre star national, François Angler, que je connais bien parce qu'il est un peu dans mon domaine, lui, pour faire son idée qui a permis vraiment de débloquer, de sortir d'une impasse, il a appliqué des idées qui venaient d'un autre domaine de physique statistique, de physique de solide. Donc c'est vraiment, à un moment donné, en science, on patauge, 10, 20 ans, on ne trouve pas de solution. Ce n'est pas en restant dans le sujet qu'on va faire avancer les choses. Voilà, donc en théorie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très important, mais qu'est-ce qui se passe en pratique ?
En pratique, on le sait, évidemment, l'évaluation, elle est faite par ses pairs et a priori au niveau facultaire. Les classements se font au niveau facultaire à travers une commission, qui est une commission qui est quand même relativement disciplinaire aussi. Et donc, ça c'est un élément. Avec la complexité aussi, finalement, de se retrouver, sinon on le voit en interne ou au niveau FNRS, ou au niveau plus large, au niveau européen aussi. Souvent, l'interdisciplinaire a tendance, du coup, à se retrouver dans deux commissions. Compliqué la tâche, donc il faut convaincre deux commissions fréquemment. Et lorsqu'on a une commission mixte qui a l'intérêt, peut-être, du coup, de créer un débat entre différentes disciplines, il y a la difficulté de questionner la discipline de l'autre. Est-ce que je me sens avoir l'expertise pour commencer à questionner, finalement, mon collègue qui est juriste et qui peut être dans la même commission. Et donc, ce qu'on a comme retour, c'est que effectivement, autant ça peut être une bonne idée de mélanger, autant en fait en pratique ça ne mène pas toujours à un changement évident ou à un questionnement vu que chacun reste plus facilement dans son champ disciplinaire. Et par rapport à la question des classements de revues, l'interdisciplinarité elle peut être incluse, mais en fait ce qui se passe fréquemment dans ces classements de revues, c'est que prenons le cas par exemple de la psychologie ou de la sociologie, elles peuvent être intégrées, mais donc elles ont tendance à être moins bien cotées que les revues disciplinaires, évidemment. Et donc c'est pas comme si elles étaient absentes, mais au lieu de valoir 10 points, on part avec 2 ou 3 points. Donc à la limite, quand c'est zéro, on se dit mais il y a quelque chose qui cloche, mais là, c'est un cas concret encore chez nous. Là, on représente 1, 2, 3 points. Et donc, on a à trimer, à en faire 3 pour arriver à l'équivalent de l'autre. Donc, on parlait de la productivité. Ça crée ça aussi.
Alors, un autre parent pauvre ou danger dont on est assez sensible tous les deux, c'était les transferts de savoir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très dangereux à long terme. Qu'on doit vraiment se rendre compte qu'on doit éviter d'aggraver encore le fossé entre les scientifiques et la société. Alors tout ce qui est outreach, aller vers les grands publics, faire des conférences de vulgarisation, montrer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait, c'est vraiment important et c'est pas du tout valorisé dans n'importe quelle évaluation que nous-mêmes on fait maintenant tous les jours. Par exemple aussi, valoriser sa recherche de tous les jours dans ses cours universitaires, c'est quelque chose aussi qui ne se fait pas beaucoup. Et je pense qu'il faudrait essayer que ça se fasse plus. Un autre parent pauvre qui nous semblait important.
On en a parlé un petit peu, la question des livres. Hein, Christian en a parlé ce matin. Et donc nous, évidemment, c'est une des possibilités en termes de publication. Donc, outre les articles, il y a les livres. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes de livres ? On y arrive finalement. C'est que l'évaluation, finalement, elle se base sur quoi ? Dans tous nos classements aussi, elle se base sur les classements entre les articles, évidemment. Donc, vous avez toutes les revues qui ont un certain nombre de points. Et donc, on agrège ces points. Il faut un certain nombre de points pour être nommé définitif. Il faut 25 points, si vous voulez tout savoir, chez nous, pour être nommé définitif. Et donc, en 3 ans, vous avez évidemment un enjeu de taille. En sachant que la personne peut arriver avec ses points, on ne va pas être trop technique par rapport à ça, mais qui crée évidemment une tension non négligeable chez la part de certains collègues. Mais cependant, on l'a dit ce matin, les livres permettent, comme le dit Christian, d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, dans les domaines de sciences gestion ou sciences économiques aussi. Et on le voit, s'il y a un livre pour l'instant dont on parle pour l'instant, ou une publication dont on parle beaucoup dans la presse, mais aussi entre les collègues, c'est évidemment le livre de Piketty sur le capital qui génère l'inégalité. Piketty, avec ça, je regarde la maison d'édition, il aurait eu 0 points chez nous. La tolérance est que si on publie dans les 10 meilleures maisons d'édition, donc Stanford, Harvard, etc., on a 10 points. Et encore, c'est divisé par le nombre de co-auteurs, contrairement aux articles. Mais donc, on le voit, c'est le problème d'avoir une possibilité de publication qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, ce qui était le cas de Piketty, qui a synthétisé quand même ses articles précédents, mais qui a créé, je pense, vraiment une certaine cohérence de son propos dans le livre, et le fait que soit ils sont non inclus, ou ils sont sous-pondérés, comme je viens de vous dire chez nous, ou en fin de compte, si ce n'est pas dans le top du top, ça ne vaut rien.
Voilà, et alors un dernier point qui nous semblait aussi important, c'est la concentration au détriment de la diversité. Je pense que ça a été aussi mentionné ce matin. Donc le grand danger, c'est vraiment un système qui s'auto-alimente et qui s'auto-évalue, parce que forcément, si on s'auto-alimente, on va aller rechercher les experts dans des mêmes disciplines et puis on va s'évaluer. Et puis comme on connaît la discipline, c'est plus facile de dire « Ah mais oui, mais ça c'est intéressant ». Puis finalement, non, le biais devient de plus en plus important. Et donc, il faut, et donc, du coup, aussi un système avec un support accru au gros groupe ou aux chercheurs stars. À un moment donné, on accumule des récompenses. Et donc, c'est un système qui s'auto-alimente. Et donc, ça peut être très dangereux au détriment de la diversité, comme l'a rappelé le groupe juste avant ici, de la créativité, parce que c'est quand même le moteur de la recherche, c'est quand même la créativité et le développement de nouveaux domaines, de nouvelles idées. Et donc, voilà. Et donc, on avait mis un peu aussi quelques... Ah oui, et alors encore aussi point qui
c'est dans le même sens, c'est qu'effectivement, il y a une concentration, il y a une standardisation, que ce soit en termes méthodologiques ou en termes de thématiques, un alignement aussi, on en a parlé ce matin, de la recherche, et visiblement dans nos domaines respectifs, c'est le cas, au sujet des revues de pointe, alors que, en fin de compte, ce qui nous semble être le plus pertinent, sans vouloir, on a parlé qu'il y aurait peut-être une deuxième journée en octobre, c'est une évaluation par champ. C'est le fait de regarder, quel que soit le champ, en économie de l'éducation, quels sont finalement les meilleurs travaux en économie de l'éducation, en finance historique, quel que soit le champ de recherche, plutôt que d'avoir une standardisation ou d'avoir simplement un élément qui est central.
Ce PowerPoint n'est pas vraiment le fruit de l'excellence. Et donc, pour terminer, quelques pistes de réflexion, c'était vraiment des idées qu'on avait eues comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'inverser un peu le système et de faire, au départ, plus confiance aux chercheurs? Donc, lui, il a quand même intérêt à faire la recherche qui lui plaît avec des étudiants qu'il considère comme bons. Et de dire, on fait confiance aux chercheurs et éventuellement, on évalue plus par la suite. Est-ce que ce qu'on a fait, en effet, et pas faire l'inverse? On a l'impression qu'on est vraiment fort évalué au début du projet, mais après le projet, on fait ce qu'on veut. Et voilà. Donc ça, c'était une possibilité aussi.
Deuxième, c'est la question de l'interdisciplinarité. Notre sentiment est que si on ne la protège pas, s'il n'y a pas des outils, des instruments spécifiques pour l'interdisciplinarité, on la prône, mais elle émerge très peu.
Oui, donc essayer d'assurer des niches ou d'avoir quelque chose qui fait que ça peut se pérenniser. Et le troisième point, c'était l'accompagnement actif des chercheurs. Alors ça se fait déjà. Notre métier, c'est quand même d'être chercheur, c'est pas d'être des managers de budget et de chercher de l'argent partout. Donc, il y aurait peut-être moyen d'être plus efficace en ayant un accompagnement actif des chercheurs au sein de leur institution, qui soit beaucoup plus proactif. Je sais que ça se fait déjà pour les projets européens, mais de toute façon, sans accompagnement, un projet européen, c'est un calvaire, mais ça pourrait se faire à tous les niveaux, d'autres projets au sein de l'université, et ça aiderait peut-être les chercheurs à faire vraiment leur mission de recherche. Voilà.
Bien, merci.